Domaine Parlé, une émission d'Alphonse Laya.
À quoi servent les mathématiques? Une série proposée cette semaine par Rutschebs. Aujourd'hui, la simulation numérique des phénomènes avec Marie Farge, mathématicienne et physicienne, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de météorologie dynamique de l'École normale supérieure. Mais tout d'abord, une présentation générale de la question.
L'an 2000 qui s'achève aura donc été, comme il en avait été décidé à Rio en mai 1992, l'année mondiale des mathématiques. Dans l'esprit de ses promoteurs, il s'agissait essentiellement de formuler les grands défis mathématiques pour le XXIe siècle, d'analyser les interactions entre mathématiques et développement, et de recadrer l'image des mathématiques auprès du grand public. De nombreuses questions se posent en effet à propos des mathématiques. Par exemple, quel est leur rôle dans la société? Sont-elles utiles? Vivantes? Sont-elles inséparables de la physique? Nécessaires au développement de la biologie? Et tant d'autres questions dont la diversité ne saurait occulter la profonde cohérence des mathématiques. Les scientifiques qui nous accompagnent au cours de cette série sont soit des mathématiciens, soit des utilisateurs des mathématiques. Ils témoigneront chacun à sa façon du dynamisme de l'approche mathématique dans leur recherche. Nous commencerons avec Marie Farge, qui est à la fois mathématicienne et physicienne. La physique et les mathématiques entretiennent en effet des relations très étroites, au point qu'on peut les qualifier d'inséparables tandems. Qu'il s'agisse d'étudier les propriétés mathématiques des théories de la physique fondamentale, ou de faire émerger des structures permettant de proposer de nouvelles théories ou des modèles nouveaux pour la physique, les mathématiques apparaissent bien comme l'indispensable boîte à outils ou partenaire des sciences physiques. Or, parmi toutes les techniques mathématiques actuellement disponibles, la simulation numérique dont il sera question dans un instant est relativement récente. Comment la situer au sein de la démarche scientifique en général? Marie Farge.
La démarche scientifique a à voir avec d'abord observer des phénomènes. A priori, on ne les comprend pas bien et on veut les étudier. Donc on observe, on essaie de trouver des comportements qui se reproduisent, faire une certaine classification des comportements de ce qu'on observe. Ensuite, on va essayer de relier les observations par ce qu'on appelle un modèle. Alors un modèle, quelquefois, ça prend la forme d'une équation mathématique. Et alors, dans beaucoup de problèmes, avoir les équations, malheureusement, ça ne suffit pas. Parce que ce qu'il nous faut, c'est des solutions des équations pour pouvoir prédire un comportement. Et beaucoup d'équations mathématiques ne peuvent pas être résolues, on va dire, à la main, avec les méthodes traditionnelles. Et on va faire appel à ce qu'on appelle les méthodes numériques.
Vous pourriez donner peut-être un petit exemple.
Et je vais essayer de vous donner un exemple de la vie courante. Vous regardez votre tasse de café, vous avez votre cuillère, vous remuez votre café. Alors les équations fondamentales de la mécanique des fluides sont les équations de Navier-Stokes. Et cette équation donc, qui décrit l'écoulement dans votre tasse de café, ces solutions sont extrêmement instables dès que vous êtes dans un régime où, par exemple, justement, vous remuez votre tasse de café, ça fait plein de petits tourbillons. Et bien ça, on ne sait pas le calculer de façon traditionnelle. Et grâce à des techniques d'approximation numérique, on va pouvoir accéder aux solutions de ces équations qu'on ne pouvait pas calculer autrement. Et ensuite, l'ordinateur servira pour résoudre ces équations. Mais une étape très importante, c'est d'avoir le bon algorithme qui vous permet de passer de l'équation à sa solution.
Alors, algorithme.
Dans l'algorithme, vous faites ça quand vous faites des recettes de cuisine, c'est suivre une série d'instructions dans un certain ordre. Et c'est ça qu'on va mettre ensuite dans l'ordinateur. L'ordinateur, il fait du travail extrêmement bête de suivre ce qu'on lui a dit de faire. Et tout l'art de la simulation numérique, c'est de bien savoir préparer les étapes. C'est comme pour la cuisine, si vous le faites dans le mauvais ordre, ça ne donne pas ce que vous avez prévu.
Donc cette simulation numérique, au fond, elle existe depuis qu'on cherche à résoudre des équations. Et elle consiste alors à, justement à mettre ces phénomènes en équation de manière approximative.
Bon, je voudrais vous raconter une petite histoire, qui est un cas historique amusant et qui vous situera probablement assez bien le problème. Un exemple typique de domaine où la simulation numérique a rendu la prédiction possible, avant c'était tout simplement impossible, c'est le domaine de la météorologie. Alors il est quand même amusant de savoir que des pionniers, et je pense en ça à Richardson, avaient envisagé, avant l'arrivée de l'ordinateur, d'essayer quand même de calculer l'évolution du temps pour prédire le temps qu'il allait faire demain par exemple. Alors en 1910 précisément, Richardson a mis au point un schéma numérique, donc une méthode numérique pour résoudre les équations de la mécanique des fluides de l'atmosphère. Et il s'est appliqué à calculer tous les champs atmosphériques, c'est la pression, la vitesse typiquement, pour la journée du 20 mai 1910, en choisissant un pas de temps de 6 heures. Il essayait de faire ça à la main, et après 6 semaines de travail, il n'avait obtenu le nouvel état de l'atmosphère que sur deux colonnes verticales du maillage. Et les valeurs qu'il avait calculées pour les champs de vent et les champs de pression différaient déjà sensiblement de celles observées. Il réalisa alors que si l'on voulait faire des calculs à la main à la même vitesse que l'évolution atmosphérique, c'est quand même ça le principe de la prédiction, on préfère prédire le temps avant qu'il ait lieu, il faudrait 64 000 personnes pour avoir une prédiction toutes les 3 heures en supposant un maillage de 200 km par 200 km sur l'ensemble du globe. Et il a écrit à cette époque-là, c'est en 1922, il a écrit un texte qui est très drôle, où il a la même à imaginer une ville au centre de laquelle se dressait un immense théâtre où travaillait, et là je cite son texte, des myriades de calculateurs, chacun d'eux ne résolvant qu'une équation ou qu'une partie d'équation. Et il y avait au centre une sorte de chef d'orchestre, il y avait quelqu'un qui synchronisait tous les calculs, Richardson dit, tel le chef d'un orchestre dont les instruments seraient des règles à calcul et des machines à calculer.
Pardon ? Les hommes étaient réduits à être des espèces d'esclaves mathématiciens.
Ah, mais il y a eu tout le 19e siècle, vous aviez des milliers d'esclaves mathématiciens. Calculer les trajectoires des planètes, c'était calculer à la main, avec des méthodes numériques, sans ordinateur, c'était quand même dans un certain sens de l'estimation numérique, et c'était des centaines de personnes, voire des milliers, qui, à travers le monde, calculaient les trajectoires, pour par exemple prédire les éclipses ou des choses comme ça.
Je me suis laissé dire que l'astronome Le Verrier utilisait des calculatrices, des femmes uniquement.
Peut-être elles étaient plus fiables, et surtout le problème, il était très dur ce monsieur Le Verrier, et vous étiez renvoyé au bout d'une ou deux erreurs. On ne pouvait absolument pas se permettre la moindre erreur, et c'était... terrible. Donc l'ordinateur, je pense, a révolutionné le domaine social en évitant ce genre de situation. Et on a dû attendre l'avènement des premiers gros ordinateurs, donc dans les années 50-60, pour que les simulations numériques elles-mêmes commencent. Et là, je pourrais, dans la continuité de l'exemple de Richardson, mentionner qu'en 1951, le premier code météorologique a été fait par von Neumann, Charney et Fjortoff, où ils ont calculé une prédiction pour le 31 janvier 1949. Et là, leurs calculs ont demandé... Là, je cite von Neumann. « Il est intéressant de remarquer que le temps de calcul pour une prévision sur 24 heures était d'environ 24 heures. C'est-à-dire que nous étions juste capables d'avancer à la même vitesse que l'évolution atmosphérique. Cependant, la plus grande partie de ce temps était occupée à des opérations manuelles ou mécanographiques. La grosse difficulté, c'était déjà de rentrer les données initiales qui décrivaient l'état de l'atmosphère... au temps d'où on veut partir. C'est une partie énorme du travail qu'il faut faire pour initialiser les simulations numériques.
Voilà, il n'y a pas que le domaine de la météo où les simulations numériques se soient révélées d'une utilité extraordinaire. De nombreux domaines sont devenus beaucoup plus accessibles depuis qu'on a cette technique.
Ici, je voudrais préciser que les ingénieurs savaient calculer des avions avant le numérique, que les ingénieurs savaient calculer des ponts, savaient calculer des voitures et beaucoup de choses. Et l'intérêt aujourd'hui du numérique, c'est de démultiplier ces possibilités. Parce que très souvent, un ingénieur qui calcule un pont, dans le doute, il va prendre des gros coefficients de sécurité. Et des gros coefficients de sécurité, ça veut dire qu'il fera beaucoup plus d'acier, il fera beaucoup plus de matériaux pour le pont. Et là, on sera sûr qu'il ne casse pas. Si on a un calcul plus fiable, et surtout si on a pu, dans une simulation numérique, tester énormément de géométries différentes, énormément de cas possibles, on va peut-être arriver à faire un pont beaucoup plus optimisé. Et à ce moment-là, on va faire un gros gain au moment de la construction en matériaux. Je vous ai donné ici un exemple un peu historique. Le premier Cray, je crois, donc les Cray, c'est des superordinateurs. Le premier Cray XMP, je crois, qui à l'époque coûtait 17 millions de dollars, je me souviens de ce prix, avait été acheté par une compagnie pétrolière, Exxon, qui avait besoin de cet ordinateur pour calculer un réservoir, tout un champ de pétrole qu'ils avaient en Alaska, et essayer d'optimiser les endroits où ils allaient faire le pompage. Bon, ils avaient un problème de définition, comment ils allaient s'y prendre pour pomper le pétrole dans cet énorme réservoir qu'ils venaient de découvrir en Alaska. Ils ont donc utilisé un superordinateur Cray pour faire ces calculs. Et en un calcul, ils ont remboursé les 17 millions de dollars avec le gain qu'ils ont fait au niveau de l'extraction du champ de pétrole.
Effectivement, un exemple extrêmement parlant. On pourrait en citer d'autres, le TGV par exemple.
Alors le TGV a été en partie calculé à l'ordinateur. Je connais d'ailleurs des personnes qui sont dans un laboratoire du CNRS qui est à Orsay, qui s'appelle le LIMSI, qui ont participé à ça. Et l'exemple du TGV est tout à fait intéressant parce que le TGV a été calculé un peu comme les avions. On fait des calculs à l'ordinateur pour essayer de comprendre certaines choses, mais ensuite, il faut absolument faire des essais en soufflerie sur maquette. Mais Si ensuite vous voulez changer légèrement, par exemple, dans le cadre du TGV, je sais que ça s'est produit, ils ont décidé après, pour des raisons je ne sais pas lesquelles, d'avoir un TGV, je crois, un peu plus étroit. Je sais qu'ils ont modifié la largeur du TGV, je ne sais plus en quel sens, mais disons, les gens qui ont conçu le TGV, après avoir fait une première maquette qui avait été essayée en soufflerie, etc., ils ont décidé de faire un TGV différent, légèrement, par exemple, plus petit. Eh bien là, on n'a pas refait d'essai en soufflerie, on a juste fait recalculer le code numérique qui avait été mis au point, on a tout recalculé uniquement à l'ordinateur et on a construit un prototype de TGV. Pour vous donner par exemple une idée de la complexité quand même des calculs en question, je me souviens qu'une des questions qui était posée aux gens du NIMSI quand ils devaient mettre au point le TGV, c'est la question suivante. Est-ce que quand un train passe à grande vitesse le long d'un quai, donc sans s'arrêter, il est à grande vitesse et il y a une personne qui se trouve sur le quai, est-ce que cette personne va être renversée par le vortex, la série de tourbillons qui a été mis dans le sillage du TGV? Un autre problème aussi, tout aussi délicat et difficile à faire, quand deux TGV se croisent, il y a une onde de choc entre les TGV, donc qui se développe parce que tellement l'écoulement est rapide et on est en régime compressible, et quelle est l'épaisseur des vitres à mettre? Alors, on peut y aller par essai-erreur, mais l'intérêt du numérique, c'est justement de
d'éviter
pouvoir faire
ça.
Beaucoup
oui.
d'essais-erreurs qui ne vous coûtent pas cher parce qu'ils sont faits dans l'ordinateur.
Voilà, et puis il y a des domaines beaucoup plus lointains que ceux que vous venez de citer, auxquels peut également s'appliquer cette simulation numérique. Je pense par exemple à la formation des galaxies.
Oui, ce qui est tout à fait intéressant dans le potentiel qu'apporte l'approche simulation numérique, c'est de pouvoir aborder des phénomènes qu'on ne peut pas expérimenter sur Terre. Vous n'allez pas, par exemple, prenons un exemple même dans le cas de la météorologie, on décide tout d'un coup que qu'est-ce qui se passerait comme évolution du climat si la Terre tournait 10 fois plus vite? Ou qu'est-ce qui se passerait si le rayonnement solaire était divisé par 2, etc., etc. Vous pouvez faire des scénarios de cas que vous ne pouvez pas réaliser parce que justement la météorologie c'est un domaine où on n'a qu'une expérience et on n'a pas les moyens de changer cette expérience. Ce n'est pas quelque chose qui est du domaine de la science qu'on peut faire en laboratoire. On va pouvoir la faire justement si on arrive à se construire une sorte de laboratoire virtuel dans l'ordinateur. Et après, on pourra changer les paramètres, s'amuser avec ça. Et le cas des galaxies est intéressant parce qu'on peut faire une hypothèse que les galaxies seraient une sorte de fluide d'étoiles. Et on peut étudier comment se forment les galaxies avec les lois de la gravitation, les lois d'attraction et puis aussi des lois qui viennent de la mécanique des fluides. Et on étudie comment le système évolue. On essaie des scénarios pour voir si on a telle densité d'étoiles, alors dans quelles conditions une galaxie peut se former ou non.
Vous arrivez à expliquer comment se forment ces bras spiraux extrêmement spectaculaires?
Alors, n'étant pas moi-même astrophysicienne, je ne préfère pas trop me mouiller là-dessus. Je sais qu'il y a des théories, en particulier d'un monsieur russe qui vient de mourir, qui s'appelle monsieur Neslin, qui est en rapport avec ça. C'est une théorie qui expliquerait ça sous forme d'instabilité hydrodynamique.
D'une manière générale, on peut dire que tout comme l'expérience de laboratoire, l'expérimentation numérique peut conduire à la découverte de comportements inattendus et même remettre en cause des hypothèses que l'on croyait jusqu'alors valides.
Oui, vous avez tout à fait raison. On pourrait par exemple citer à titre d'exemple quelque chose qui s'est passé assez tôt, au début des années 50. Vous savez que c'est von Neumann qui a développé le premier gros calculateur au sens moderne. Et il a été très vite utilisé aux États-Unis, entre autres pour calculer la bombe H. Et dans cette équipe, il y avait un mathématicien absolument fameux qui s'appelle Stanislas Ulam, qui avait eu l'idée de faire des tests à l'ordinateur sur des cas académiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait un petit peu trop compliqué. Mais il a commencé à calculer à l'ordinateur des systèmes de particules en interaction. Et il a changé les lois d'interaction. Et en général, quand vous avez un système de particules, par exemple, qui s'entrechoquent, au bout d'un temps court, vous arrivez à un état d'équilibre qui correspond à ce qu'on va appeler l'équilibre thermodynamique. Et là, il était très étonné que si on changeait légèrement les lois d'interaction, on n'arrivait pas à cet équilibre. Et au contraire, le système revenait périodiquement vers des états qu'il avait eus antérieurement. Et ça a été un peu une surprise, parce qu'on ne pensait pas qu'un système d'un grand nombre de particules en interaction pouvait avoir des comportements quasi périodiques comme ça. Et on s'attendait plutôt qu'elles aillent vers l'équilibre. Ensuite, quelques années plus tard, dans les années 50, Norman Zabuski et Martin Kruskal de Princeton ont repris l'expérience de Fermi-Pasta-Ulam, ce cas de particules d'interaction, et en mettant une certaine loi d'interaction, ils ont trouvé une solution très bizarre où le système évoluait vers une onde, on appelle ça un soliton, une onde à bosse, qui avait la propriété de se déplacer. Et par exemple, quand deux ondes à bosse se croisaient, elles s'interpénétraient. On savait bien que cette solution avaient un comportement pas tout à fait classique.
Pourquoi appelle-t-on les solitons des ondes à bosses? Est-ce que toutes les ondes n'ont pas des bosses?
Une onde à bosses, c'est comme si vous aviez une vague avec une seule crête qui se baladerait, qui bougerait. Un exemple que vous connaissez de la vie, bon, je ne vous le souhaite pas, d'ailleurs, ce n'est pas de la vie de tous les jours, c'est les tsunamis, c'est-à-dire les raz-de-marée sont des ondes à bosses. C'est-à-dire une énorme vague qui se déplace toute seule. Et ça, c'est lié à des comportements non linéaires qui ne sont pas classiques par rapport aux autres types de vagues qu'on connaît.
Et alors, quand deux solitons se rencontrent?
Alors, quand deux solitons se rencontrent, ils s'interpénètrent, mais ils se croisent, ils se traversent l'un l'autre, mais vous avez ce qu'on appelle un déphasage, c'est-à-dire ils sortent légèrement décalés de l'interaction. Cette onde à bosse avait été observée bien avant qu'on fasse des simulations numériques, mais on n'avait pas d'explication, par Scott Russell, je crois. Il avait remarqué que, par exemple, vous avez un canal avec une écluse. Quand on ouvre brusquement l'écluse, il y a une onde à bosse qui sort en aval de l'écluse. Et il avait même vérifié qu'on pouvait la suivre à la vitesse d'un cheval. Ça, c'était sa description du phénomène. Donc, je vois une bosse sur l'eau qui se déplace à la vitesse d'un cheval. Maintenant, l'explication n'a été trouvée que liée aux expériences numériques faites par Kruskal et Zabuski dans les années 50. Il ne faut pas oublier que la démarche scientifique se fait toujours en interaction entre les observations, les théories et les vérifications expérimentales. Et le numérique là-dedans va jouer un rôle de complément à ces deux fondements de la démarche scientifique qui sont la théorie et l'expérience. Et le numérique va être une autre forme d'expérience, une troisième voie, une forme d'expérience numérique. Ça va permettre d'observer des phénomènes qui sortent directement des équations.
Alors cette simulation numérique qui permet de faire apparaître des phénomènes, de visualiser, de donner des solutions qu'on peut voir, est-ce qu'elle permet aussi de prévoir, de prédire de nouveaux phénomènes?
À mon avis, il y a plusieurs rôles différents que le numérique va jouer. Celui de prévoir des phénomènes, il y a eu des cas, c'est pas la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est beaucoup plus de résoudre des problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre autrement. On a la bonne équation, donc là, il n'y a pas de découverte scientifique majeure, on est d'accord avec l'équation, mais maintenant, la question, c'est comment arriver à la résoudre dans un cas appliqué à un problème qu'on se pose. Reprenons, j'invente un peu, mais reprenons le cas du TGV. Il ne suffit pas d'avoir les équations fondamentales de la mécanique des fluides pour calculer un TGV. Il faut être capable de traiter le cas particulier d'un train qui va à telle vitesse, la température de l'air de temps, telle géométrie, telle condition initiale, telle condition limite.
Ce qui est intéressant avec l'ordinateur, c'est qu'on peut assez rapidement imaginer différents scénarios de manière virtuelle et puis voir quelles en seraient les conséquences. Par exemple, pour reprendre la question de la météorologie, de la dynamique des fluides, on peut essayer de faire varier dans l'imagination le taux de gaz carbonique dans l'atmosphère et puis avec tel taux, voir ce qui se passe, avec tel autre, voir ce qui se passerait.
Je crois qu'on peut effectivement dire que l'ordinateur permet de décupler quelque chose qui était d'ailleurs assez pratiqué depuis le début de la démarche scientifique, qui est ce qu'on appelle l'expérience de pensée. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans une situation qui ne peut pas se réaliser en pratique, mais on dit « et si c'était comme ça, alors qu'est-ce qui se passerait ?» Et on voit les conséquences qui en tiraient. Mais pour revenir à votre question précédente, je crois qu'un rôle vraiment important de la simulation numérique, c'est d'aider à concevoir des systèmes, ça je l'ai expliqué par exemple dans le cas de l'aéronautique ou du TGV, mais également à orienter des politiques. Je pense là précisément à un cas de société que vous connaissez, qui sont les questions de réchauffement climatique. On a des codes de simulation générale de l'atmosphère, des modèles de circulation générale de l'atmosphère, qui vont permettre de calculer l'évolution du climat sur l'ensemble du globe. L'utilisation qu'on en fait actuellement, dans le cas, par exemple, de ces études sur le réchauffement climatique, c'est de faire des scénarios, de dire « et si les émissions de gaz carbonique étaient multipliées par deux, alors qu'est-ce qui se passerait sur l'évolution du climat ?» Et le fait qu'on ait ce code numérique permet d'envisager de telles expériences. Alors, j'appelle ça des expériences de pensée quand même, parce qu'on ne peut pas les réaliser sur Terre, étant donné, comme vous le savez, on n'a qu'une seule Terre, et le laboratoire, il serait vraiment gros si on voulait commencer à changer les paramètres. Donc là, dans ce contexte, le rôle de l'ordinateur est central. Mais bien évidemment aussi, les codes numériques ne sont pas des panacées. Leur élaboration est très sophistiquée et ils reposent, par exemple, c'est important en météorologie, sur une très bonne définition des observations d'où on est parti.
Marie Farge, tous ces exemples nous montrent bien à quel point est importante la complémentarité qui existe aujourd'hui entre les approches purement expérimentales, les approches d'expérimentation numérique et puis la théorie. Je voudrais vous demander à vous, donc spécialiste de la simulation numérique. Comment vous en êtes arrivé là, au fond ?
Vous savez, dans la vie, il y a souvent des hasards. Il y a une chose qui, pour moi, n'était pas un hasard, c'est que depuis que j'étais enfant, vraiment très très jeune, je voulais faire de la recherche. Ça, c'était le point clair. À l'âge de 10 ans, je savais que je voulais faire de la recherche. À l'âge de, disons, 15 ans, je savais que je voulais faire de la recherche en physique des particules, des hautes énergies. C'était ce qui m'intéressait le plus. Et je suivais ça de très près, disons, au sens où je lisais toute la littérature scientifique, grand public, qui sortait sur la question. Et dès l'âge de 15-16 ans, je suis allée régulièrement au CERN. J'allais en vacances en Suisse pour les vacances d'hiver, et je m'arrêtais toujours à l'aller et au retour au CERN, et où j'ai vu, par exemple, arriver des premiers anneaux de stockage, la première chambre à bulles, etc. J'étais complètement passionnée de physique des hautes énergies. Mais là aussi, j'ai vu en quelques années, entre les années 65 et 70, un changement énorme de ce type de science. Je me souviens, le début où j'allais au CERN, les équipes étaient petites et un petit groupe pouvait travailler sur un sujet. Et puis quand j'y suis retournée dans les années 70, on a vu la science devenir une entreprise. Et chaque chercheur devenait un petit rouage dans une énorme machine. Alors ça peut intéresser des gens, mais moi je me suis rendu compte, et ça a été pour moi un choc quand j'ai réalisé ça, quand j'ai réalisé qu'une expérience était 200-300 personnes. Là, je ne savais plus quelle était ma place. J'avais compris au début qu'est-ce que je pouvais faire, et puis tout d'un coup, je ne savais plus quelle était ma place. Et je suis allée faire des études à l'université de Stanford, d'ailleurs dans l'idée quand même de faire de la physique des particules. Et puis là, j'ai découvert le numérique. Et là, je me suis rendu compte que l'intérêt du numérique, pour moi, à l'époque, c'était de pouvoir recréer une réalité complète, du moins complète au sens, pour le phénomène qui vous intéresse, vous étiez dans l'ordinateur et vous maîtrisiez tout. C'est-à-dire qu'une personne pouvait construire son modèle, le résoudre, sortir des prédictions. C'est comme si la science redevenait accessible à une personne grâce au fait qu'elle était dans un ordinateur. Bon, bien évidemment, l'évolution des choses maintenant me donne complètement tort, parce qu'aujourd'hui, écrire un code numérique, c'est à nouveau une entreprise très compliquée, et ça fait appel à beaucoup de personnes, et on doit à nouveau fonctionner en équipe. C'est-à-dire, même si mon désir à l'origine, c'était de me retrouver toute seule dans l'ordinateur à pouvoir faire un peu tout moi-même, écrire le code, mettre en équation et faire une chose qui a été très importante pour moi à une époque, aussi développer toutes les techniques de post-traitement des résultats, de visualisation des résultats, de comprendre les résultats qu'on obtient. Maintenant, c'est terminé. Donc, on est revenu au problème qui était ce qui m'avait fait plutôt choisir le numérique que l'expérience de laboratoire. Et je m'amuse d'ailleurs de temps en temps dans ma communauté à dire, vous savez, dans le domaine numérique, on est dans une transition. On n'est plus comme M. Lawrence, qui à Berkeley, dans les années, je sais pas, les années 50, pouvait fabriquer son petit cyclotron sur le coin de son bureau et puis faire toute sa physique des particules dans un laboratoire avec une petite équipe. Ensuite, on est passé au CERN où au début, ce n'était pas trop gros. Et après, c'est devenu une entreprise énorme. Et on ne peut pas faire de la science autrement. C'est l'évolution normale des choses. Eh bien, le domaine du numérique, c'est comme ça. On est encore, au moins les gens de ma génération, à l'ère des pionniers qui avons connu l'ordinateur et le début de la simulation numérique au sens moderne du terme. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Et donc aujourd'hui, c'est du travail d'équipe avec des équipes qui doivent être grosses, avec une collaboration forte entre informaticiens et physiciens, justement, et mathématiciens et appliqués.
Des équipes qui doivent être bien formées.
Bien formées, c'est une question centrale, sachant que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la simulation numérique, ce qu'on appelle le calcul scientifique, n'est pas encore bien reconnu au niveau académique. Par exemple, quand j'ai un étudiant qui fait sa thèse avec moi, c'est toujours très difficile de le situer dans un système académique, en particulier pour lui trouver un poste. Parce qu'il n'est pas un vrai mathématicien appliqué, parce qu'il utilise les mathématiques, mais pour faire de la physique avec, c'est-à-dire comprendre des phénomènes. Il n'est pas non plus un physicien comme les autres par le fait qu'il travaille à l'ordinateur. On sent vraiment qu'on est là à la naissance d'une méthode scientifique, comme je l'ai dit, mais les institutions académiques ne sont pas encore complètement prêtes à... Il n'y a pas de département de calcul scientifique.
Un enjeu pour le 21e siècle, alors ?
C'est une chose qui va se faire, c'est évident. Et les gens qui sont à l'interface, comme moi, disons les gens qui ont commencé dans ce domaine, c'est maintenant une période pour nous importante où je crois qu'il faut qu'on fasse école. C'est-à-dire qu'il faut former des jeunes et leur montrer que ça existe. Parce que le problème, je vois très bien, je suis à l'école normale supérieure rue d'Ulm, c'est que les jeunes, tout simplement, ils ne savent pas que ça existe. Si on ne les confronte pas au monde de l'enseignement à cette possibilité-là, Ils vont aller ailleurs parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Il faut les mettre face à ce choix qui est que, est-ce que vous aimeriez faire ça ? Peut-être vous préférez faire de la théorie classique, peut-être vous préférez faire de l'expérience classique. Il faut leur laisser le choix que l'expérience numérique existe aussi. Et je suis sûre qu'il y aura des jeunes très passionnés par ça, comme je l'ai été quand j'ai commencé à en faire moi-même.
C'était Marie Farge, mathématicienne et physicienne, directeur de recherche au CNRS, sur la question de la simulation numérique des phénomènes. Demain, Rutscheps recevra Jean-Michel Halimi, astrophysicien spécialiste de la cosmologie, chargé de recherche au CNRS, sur la question des mathématiques et de la cosmologie précisément. Domaine parlé était réalisé par Mathieu Ramsauer, assistant de production Monica Lah. Si vous souhaitez obtenir une copie sur cassette de nos émissions, vous pouvez passer commande en appelant le 026 323 24 24. 026 323 24 24.
Domaine parlé, une émission d'Alphonse Laya sur Espace 2 du lundi au vendredi de 8h30 à 9h avec une rediffusion de 22h30 à 23h.
à Rome Laurent Morino.
Des dizaines de milliers de pèlerins.